Et le journal est présenté par Yves Decamp. Bonjour,
bonjour
Yves.
Un nouveau navire humanitaire accoste de force à Lampedusa où une quarantaine de migrants ont été autorisés à débarquer. Le navire a été saisi. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qualifie les ONG de chacal. L'Iran reprend son programme d'enrichissement de l'uranium un peu plus d'un an après la rupture de l'accord sur le nucléaire par les Américains. Téhéran met la pression sur les Occidentaux. La parenthèse Tsipras sera-t-elle refermée en Grèce après 4 ans et demi de pouvoir? Le leader de la gauche radicale pourrait perdre sa majorité à l'occasion des législatives anticipées de ce dimanche. Dans ce journal également, un Grenelle des violences conjugales à la rentrée. Le gouvernement a entendu les revendications des associations. La garde des Sceaux promet un nouveau projet de loi à l'automne. La finale de la Coupe du Monde de foot, États-Unis-Pays-Bas, à guichet fermé. Coup d'envoi à 17h à Lyon. Et puis, il était l'inventeur de la bossa nova.
Si você disser que eu desafino, amor.
João Gilberto est mort hier au Brésil. Il avait 88 ans. Enfin, la météo, plus aucun département en vigilance orange orage. Mais des risques d'orage subsistent dans le centre et le nord-est.
France Inter.
Pour commencer ce petit miracle au large de Sète, c'était hier une famille de 7 personnes en perdition sur un voilier. 5 d'entre elles étaient tombées à l'eau, sans gilet de sauvetage. L'alerte a été donnée par la grand-mère, restée seule sur le voilier avec un très jeune enfant. Les sauveteurs ont pu intervenir à temps, mais il était moins une. Comme l'explique Michel Zambrano, responsable de la SNSM à Sète, il est au téléphone de Stéphane Pochet.
On s'est rendu au devant de ce bateau et effectivement c'était depuis ce bateau que les 5 personnes étaient passées à la mer. Ils se sont baignés, ils ont mis une bouée à la traîne avec un bout, ils se sont tenus à ce bout. Ils se faisaient tracter certainement par le voilier qui était sous voile. Un coup de peau, le bout, il a cassé. Ils se sont retrouvés avec un morceau de bouée dans les mains. Et ils ont pu se sauver comme ça, les petits. Aucun n'avait les gilets. C'est vraiment un miracle, hein. Des choses comme ça. Ce qui a contribué à leur survie, c'est le fait que l'eau était très chaude. La température d'eau était élevée, mais enfin, il y avait quand même des gosses qui étaient à la limite de l'hypothermie. Hein.
Des interventions comme celle-là, vous en faites beaucoup, des gens qui restent bloqués comme ça au large?
Vous savez, en matière de sauvetage, sur 1000 sorties, il n'y en a aucune qui serait identique à l'autre. Hein. Comme ça, je crois que c'est la première.
Voilà, plus de peur que de mal et personne n'a été hospitalisé. À Lampedusa, après le Sea-Watch, un nouveau navire humanitaire, l'Alex, est entré de force dans le port. 41 migrants ont été autorisés à débarquer. Un autre bâtiment, l'Alan Kurdi, qui attendait au large, a annoncé qu'il se dirigeait finalement vers Malte. Une semaine après le Sea-Watch, c'est un nouveau défi pour le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui continue dans la surenchère verbale, toujours assuré d'ailleurs, selon les enquêtes d'opinion, du soutien de cette dite opinion, Olivier Tosseri.
Nouveau défi lancé à la politique migratoire de Matteo Salvini, basé sur la fermeture des ports aux navires des ONG. Le ministre de l'Intérieur ne décolère pas quelques jours après le Sea-Watch 3. Un autre navire humanitaire, l'Alex, affrété par un collectif de gauche et d'extrême-gauche méditerranéen, a forcé lui aussi les eaux territoriales italiennes. Avec 41 migrants à bord, il a accosté dans le port de l'île de Lampedusa, déclinant l'offre d'accueil émise par Malte, au motif que ce long trajet serait trop dangereux pour les passagers. Le navire sera saisi et l'équipage fera l'objet de poursuites judiciaires pour avoir favorisé l'immigration clandestine, comme le prévoit le décret sécurité. Son auteur, Matteo Salvini, souhaite le renforcer en infligeant des amendes allant jusqu'à 1 million d'euros aux membres des ONG qu'il qualifie de chacal, complices des trafiquants d'êtres humains. Il souhaite également des patrouilles de navires militaires pour empêcher d'autres débarquements. Une fermeté qui plaît aux Italiens. Dans un sondage publié ce samedi par le Corriere della Sera, 59% d'entre eux approuvent la fermeture des ports. Quant à la popularité des ONG, elle n'a jamais été aussi basse. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
En Iran, trop, c'est trop. Un peu plus d'un an après la rupture de l'accord sur le nucléaire par les Américains, le président Rouhani a mis ses menaces à exécution en annonçant la reprise de l'enrichissement de l'uranium au-delà des normes autorisées. Et l'Iran menace de s'affranchir encore d'autres obligations dans les 60 jours si aucune solution n'est trouvée au problème du pays, toujours sous le coup des sanctions imposées par Washington. À Téhéran, Siavosh Ghazi.
L'annonce a été faite par le responsable de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a annoncé que l'Iran avait déjà pris les mesures nécessaires pour augmenter son niveau d'enrichissement d'uranium dès aujourd'hui. Pour le moment, l'Iran devrait enrichir à environ 5%, niveau nécessaire pour le combustible des centrales nucléaires civiles, mais pourrait aller à un niveau de 20% pour le combustible du réacteur de recherche de Téhéran et même au-delà pour la propulsion nucléaire des navires. Cette annonce vise à augmenter les pressions sur les Européens pour qu'ils prennent les mesures concrètes afin de permettre à l'Iran d'exporter son pétrole et d'avoir des relations bancaires et commerciales normales avec le reste du monde, malgré les sanctions américaines. L'économie iranienne est en effet durement touchée par ces sanctions, avec une inflation de plus de 50%. Surtout, l'Iran a de plus en plus de mal à exporter son pétrole et le manque à gagner pose de graves problèmes au gouvernement. Reste que cette annonce pourrait également pousser les Européens à durcir le ton à l'égard de l'Iran. Terence Yavashkiazi, RFI pour France Inter.
Et ce matin, l'Élysée condamne une violation de l'accord de Vienne par Téhéran. En Grèce, la page Tsipras est-elle sur le point de se tourner? C'est en tout cas ce que prédisent les enquêtes d'opinion. Avant les législatives de ce dimanche, élection provoquée par l'échec cinglant du parti Syriza, le parti du Premier ministre aux dernières européennes. Après des années d'austérité, il est probable, selon les analystes, que les électeurs lui feront payer ses promesses non tenues et la cure d'austérité qu'il leur a imposé à la demande de l'Union. Marie-Pierre Véro, vous êtes à Athènes où le mécontentement était perceptible ce matin, sans doute à la sortie des bureaux de vote.
Ah oui, nombre d'électeurs que j'ai croisés ce matin critiquent vertement la potion amère infligée par Alexis Tsipras, une austérité qui a mis les Grecs à genoux. Et ici, dans le bureau où je me trouve, un quartier qui vote traditionnellement à gauche, eh bien l'affluence est en deçà de la normale. Et même ceux qui sont venus voter pour Syriza, comme Philippa, une jeune étudiante, manquent d'enthousiasme. Mon cœur penche plutôt pour Tsipras, nous dit-elle, mais pas pour la personne de Tsipras. C'est surtout que je n'aime pas Nouvelle Démocratie, qui représente les intérêts du grand capital et ne s'occupe pas des gens ordinaires. La participation sera décisive, bien sûr, et Alexis Tsipras le sait, qui est venu tout à l'heure ici, sous les applaudissements de ses partisans, glisser son bulletin dans l'urne et sonner la mobilisation. Mais malgré ses acclamations, le représentant de Syriza, qui surveille les opérations de vote, semble avoir intégré la défaite.
Même si on considère que les jeux sont faits, et chaque vote compte pour le nombre de parlementaires aussi, parce qu'une opposition faible ou une opposition forte, ce n'est pas la même opposition. L'essentiel, c'est qui va pouvoir former un gouvernement. Mais il ne faut pas oublier aussi que même au cas de qu'il n'y a pas de victoire de la part de la gauche, il faut avoir une opposition très forte au Parlement.
Et oui, parce que ce qui est en jeu, en effet, Yves, plus que les résultats, c'est de savoir si Kyriakos Mitsotakis aura ou non ce soir la majorité absolue au Parlement, la voulie au Parlement grec.
Marie-Pierre Véro en Grèce avec Eric Audra.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Le gouvernement nous a entendus, c'est super. Réaction satisfaite de l'association Une Femme, Un Toit aux annonces de Marlène Schiappa. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a repris la proposition des associations d'organiser à la rentrée un Grenelle des violences conjugales, une rencontre de tous les acteurs concernés qui pourrait s'accompagner d'une grande mobilisation nationale et déboucher sur un nouveau plan d'action. Un Grenelle qui s'ouvrirait le 3 septembre, le 3-9-2019, comme le numéro d'appel 3919 réservé aux femmes victimes de violences. Face à ce fléau des féminicides, rappelons que 74 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier dernier. Face à ce fléau, on peut faire plus et mieux, confirme la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.
Franchement, nous essayons de resserrer les boulons de tous côtés. L'ordonnance de protection, on en dispose. Il faut la multiplier. Nous en délivrons 3000 en France. En Espagne, où ils ont un système beaucoup plus fluide, c'est plus de 10 000 qui sont délivrés chaque année. Nous devons monter à ce niveau-là. Les téléphones graves danger, on doit les multiplier et on doit les utiliser, ce qui n'est pas complètement le cas, parce qu'ils s'appellent téléphones graves danger. Et donc, il y a des fluctuations sur la notion de grave danger. Ça n'est pas acceptable. Nous devons déployer de nouveaux outils. Je pense notamment aux bracelets anti-rapport. Rapprochement. Ce dispositif-là, nous disposons d'un système qui ne fonctionne pas très bien parce qu'il est trop limité pour les personnes auxquelles il s'adresse. Quand les personnes ont été condamnées, ça ne suffit pas. Et donc, je vais, avec le soutien des parlementaires, prendre un nouveau texte qui permettra d'étendre ce dispositif avant la condamnation au civil et au pénal. J'espère que le texte dont j'ai besoin, puisqu'actuellement je n'ai pas la possibilité de le faire, le texte dont j'ai besoin devrait être adopté à l'automne.
Nicole Belloubet sur BFM. Dans un message sur Facebook, le président de la République a reconnu que la République n'avait pas su protéger les femmes tuées par leurs conjoints et dont il a égrené les prénoms un par un. La violence qui vous a coûté la vie nous écœure et nous révolte, a conclu Emmanuel Emmanuel Macron en rappelant notamment le numéro de téléphone dédié le 3919 demain matin sur France Inter. C'est Marlène Schiappa qui sera l'invitée du 7-9 de Frédéric Mettezo. Il était le père de la bossa nova, l'un de ses principaux créateurs. João Gilberto est mort hier à son domicile de Rio de Janeiro. Il avait 88 ans. C'est avec son album de 1964, réalisé en association avec le saxophoniste américain Stan Getz, que la bossa nova s'était imposée au monde entier, notamment avec la chanson The Girl from Ipanema, énorme succès mondial. Et on ne compte plus aujourd'hui les écoles de bossa nova, notamment bien sûr au Brésil, où João Gilberto reste la référence, comme a pu le constater Marie-Pierre Véraud.
Au soir de la mort de João Gilberto, son nom circulait dans les fêtes de Rio. La mort du père de la bossa nova était ce samedi soir sur toutes les lèvres, étant donné le monument qu'était ce musicien au Brésil, explique Dani.
C'est une icône de la musique brésilienne. Je peux dire que c'est un dieu dans l'univers musical brésilien. Il a créé une nouvelle tendance, une nouvelle manière de faire la musique. C'est une référence éternelle.
Les Brésiliens se souviennent de son œuvre car à l'étranger, João Gilberto a beaucoup représenté un certain Brésil moderne et avant-gardiste pour Claudia.
C'est une perte considérable. Il était une figure clé de la musique populaire brésilienne. Lui et Tom Jobim représentent la vision que les étrangers ont d'une certaine modernité, d'un Brésil qui peut créer des choses absolument géniales.
Ce week-end, le Brésil a réécouté de la bossa nova, un son des années 50 et 60 qui traduisait le génie musical dont le pays est capable. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
Voilà, c'est bien. Anne Vigna, et non pas Marie-Pierre Véraud, qui est à Athènes. Une finale de Coupe du Monde en France, à Lyon, c'est l'événement sportif de ce dimanche, États-Unis-Pays-Bas, 17h, finale arbitrée par une Française, d'ailleurs, Stéphanie Frappard. Le match se jouera à guichet fermé. Et oui, on aime le foot au pays de l'OL, et masculin et féminin, comme d'ailleurs partout en France, comme s'en félicite la vice-présidente de la Fédération française. Brigitte Henriques, elle est au téléphone de Matteo Maestracci.
Les supporters américains seront présents comme depuis le début de la compétition. A priori, il y aura peut-être un petit peu moins de supporters néerlandais parce qu'ils ne s'attendaient pas à être jusque-là et donc ils ont acheté tardivement les billets. Mais en tout cas, on est sûr d'avoir un stade plein, tout est parti. C'est un pari réussi. Remplir les stades, c'était vraiment le premier enjeu. C'était la priorité pour nous parce que contrairement à l'Euro 2016, il n'y avait pas de tirage au sort des billets. Il fallait vraiment mobiliser tout le monde. Donc on est à un taux de remplissage de 74% alors qu'on avait un minimum à atteindre de 56%, donc on est bien au-delà de nos objectifs. Et puis surtout, c'est la première Coupe du Monde où on a des fans de tous les pays du monde entier qui sont venus et qu'on remplit nos stades avec 15 000, par exemple, supporters néerlandais à Valenciennes. Plus de 20 000 aussi américains, on l'a vu, mais il y avait aussi beaucoup d'anglais, beaucoup de suédois encore hier à Nice. Donc ça, c'est une belle surprise.
Et oui, dans la petite finale hier à Nice, les suédoises ont battu les anglaises 2-1. En foot également, grosse déception en Égypte après l'élimination des Pharaons. Pourtant favori la Coupe d'Afrique des Nations, leur star Mohamed Salah n'a rien pu faire face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, vainqueur 1-0. Ce matin, la presse Kayrot n'a pas de mots assez durs pour fustiger les joueurs et l'entraîneur de la sélection égyptienne accusé d'avoir fait honte au pays. Le Tour de France, deuxième étape, toujours à Bruxelles, un contre-la-montre par équipe à partir de 14h30 tout à l'heure. C'est l'équipe de deux des favoris, Geraint Thomas et Egan Bernal, qui partira la première. Les autres suivent toutes les 5 minutes. Allez, dans un instant, le bulletin météo. Plus aucun département n'est en vigilance orange aux orages, qui ne veut pas dire que tout risque d'orage soit écarté. Une forte activité électrique et de fortes pluies, parfois même de la grêle, ont été observées la nuit dernière dans le centre-est, dans la Loire, par exemple. Reportage d'Alexandre Berthaud.
Dans cette vidéo tournée hier soir dans la Loire, on peut entendre le bruit assourdissant des grêlons. Pour la troisième fois en trois semaines, de nouveaux orages ont gravement endommagé les habitations dans le département. Velux et tuiles brisées, une profession souffre en particulier les agriculteurs, des dégâts matériels hier et des cultures ravagées par la grêle plus tôt dans la semaine. Gérard Gallo, président de la FDSEA 42.
On est sur les cultures céréales, maïs, herbes et bien sûr l'arboriculture qui a aussi été fortement touchée. C'est impressionnant. Les cerisiers sont complètement, totalement impactés, les abricotiers, les pêchers. Il n'y aura pas pas de récolte du tout. Vous comprenez bien qu'on est en début de saison et là, c'est catastrophique.
La région, le département et la métropole de Saint-Étienne ont assuré les agriculteurs d'un soutien financier. Des entreprises ont également souffert. Un menuisier et deux tisserands ont été inondés à cause des trous de grêlons dans le toit hier soir. Bruno Denis emploie 60 personnes. Il ne sait pas s'il pourra reprendre l'activité demain.
Les 60 personnes sont au chiffre unique et puis c'est surtout peur de perdre des marchés pour le futur, etc. Donc j'espère que mes clients seront compréhensifs. Voilà.
En 3 semaines et 3 épisodes orageux, les pompiers de la Loire ont effectué plus de 700 interventions.
Alexandre Berthaud, moins de risques a priori aujourd'hui, le temps.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Jean-Michel Golinski.
Risque orageux cet après-midi entre le Massif central, les Alpes et le quart nord-est, mais ces orages seront moins forts que ceux qui se sont développés ces dernières 24 heures. Du nord de la Seine à la Champagne, un ciel plutôt chargé et des pluies par intermittence. Sur les autres régions, temps sec est généralement bien dégagé dans l'ensemble. Grand écart des températures cet après-midi entre les 20 et 23 degrés prévus de la Bretagne au nord et sur la Champagne, et les 36 en moyenne sur les régions méditerranéennes. Il fera 26 à Nancy et Paris, 30 au Mans, à Bourges, Cognac, Tours et Lyon, 31 à Limoges et 32 près de la Garonne. Demain, des averses ponctuées d'éclairs en provenance d'Espagne vont survoler le quart sud-ouest avec a priori d'importantes précipitations sur les Pyrénées, sur l'Auvergne et des Alpes au Vosges, maintien d'un risque d'averse, ailleurs temps sec mais plus chargé au nord de la Seine.